I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actualité avec des acteurs majeurs du monde du tennis. Je vous rappelle que les émissions sont à écouter en intégralité sur toutes les principales plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un maximum d'étoiles et à laisser des commentaires. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir dans cette émission une jeune femme qui a été classée 11e mondiale, qui a gagné la Fed Cup en 2019 et qui compte 6 victoires en simple. Elle a 30 ans, elle est sur le circuit depuis plus de 15 ans. Ouais. Alizée Cornet. Salut Alizée.
Bonjour, ça va Arnaud ?
J'ai dit des bêtises ou c'était juste depuis plus de 15 ans ? C'est vraiment ça.
D'accord. Non, c'est ça, puisque ma première année pro, c'était 2015. Donc ouais, c'est la 15e année. Attends, mais du coup, même 16e année. 2005, pardon. Oui. Ouais, j'ai pas envie de me projeter aussi loin dans le temps, mais oui, c'était 2005, effectivement.
Bon, comment vas-tu, premièrement? Comment as-tu vécu ce confinement? As-tu pu t'entraîner de ton côté?
Alors non, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un cours à proximité pour m'entraîner. Donc, j'ai dû prendre mon mal en patience et faire uniquement du physique pendant ces 8 semaines. C'était un peu long, mais j'ai réussi à être rigoureuse. Je faisais quasiment une séance par jour de physique pour me maintenir en forme. Mais par contre, non, pas de tennis possible. Enfin, j'ai joué une ou deux fois, mais c'était pas vraiment de la qualité. C'était vraiment juste pour me donner bonne conscience. Et au final, j'ai arrêté, quoi.
Tu t'es pas mise contre un mur à un moment? Je crois avoir vu ça quelque part.
Non, ouais, ouais, à un moment donné, ça m'a tellement... j'ai tellement eu des fourmis dans les jambes que je suis descendue dans mon garage, en fait, où il y a une sorte de pseudo-mur, mais qui est un peu en ruine. J'ai commencé à taper 2-3 balles. C'était assez satisfaisant de taper quelques balles, même contre le mur. Puis au final, après 5-10 minutes, je me suis fait incendier par les voisins du dessus. Oui, parce qu'en fait, le bruit de la balle résonnait dans leur appartement. Comme je suis dans une résidence, en fait, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Du coup, je n'y suis pas retournée.
D'accord, très bien. Donc, une seule fois. Donc, pendant ce confinement, qu'est-ce que t'as, enfin, est-ce que tu l'as bien vécu déjà? Est-ce que le fait d'être éloigné comme ça des cours aussi longtemps sans savoir quand aurait lieu la reprise, enfin, on sait que ce n'est pas simple d'avancer comme ça sans objectif, sans ambition. Toi, ouais. Tu l'as vécu comment?
Bah, écoute, moi, je l'ai très bien vécu. Quasiment tout le confinement, ça a été vraiment un bol d'air pour moi parce qu'en fait, je n'avais jamais eu l'occasion d'arrêter, de faire un break, de mettre ma carrière sur pause. Là, ça a été vraiment un arrêt en plus global. Donc, du coup, je n'avais pas cette frustration de me dire que moi, j'étais, par exemple, arrêtée pour cause de blessure ou autre, mais que la vie du circuit continuait. Je savais qu'on était tous sur la même enseigne et ça m'a permis de complètement lâcher prise. Et en fait, j'ai adoré ce confinement parce que ça m'a juste permis de remettre un petit peu mes objectifs en question et puis de voir si j'avais toujours envie de jouer ou pas et tout simplement de faire un break dans cette vie complètement déjantée. Donc voilà, c'était que du bonheur et j'en ai été que plus fraîche et plus motivée de retourner sur le court après ça, quoi. Alors, je sais pas comment toi tu l'as vécu parce que moi, toi, tu as des enfants et tout, donc ouais. C'est compliqué, je crois. Mais...
Écoute, je suis content que mes enfants aient repris l'école, comme tous les parents.
Okay. J'imagine. Je suis
professeur d'école, donc. Voilà, une belle reconversion. Non, mais en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que sur les différentes émissions qu'on a pu déjà tourner, ça revient, le fait de souffler, le fait de pouvoir poser ses valises. Et le fait qu'on vous l'impose, c'est pas plus mal parce qu'on ne peut pas le faire soi-même, on ne peut pas le décider soi-même, ça. C'est impossible parce que tu as les points, parce qu'il faut y aller, il faut y retourner, il faut s'entraîner, il faut jouer. Mmh. C'est vrai que tu es quand même dans cette espèce de spirale. C'est quand même un tourbillon qui est... assez difficile parfois à vivre.
Bah oui, tu sais ce que c'est. Après, on peut se l'imposer, on a toujours le choix dans la vie, mais je pense qu'il faut une sacrée dose de courage pour se l'imposer, ou alors il faut vraiment en avoir ras-le-bol à tel point qu'en fait, on a ce break est vital. Mais c'est vrai que moi, il y a eu plusieurs fois dans ma carrière où j'ai eu carrément envie d'arrêter le tennis tellement j'en avais marre. Et pourtant, je continue à m'entraîner, je continue à jouer des tournois parce qu'effectivement, on est un peu emprisonné dans cette spirale dont tu parles. Et en fait, on l'aime autant qu'on la déteste, cette spirale. Et là, au moins, il n'y avait pas de questions à se poser. C'était break général. Tout le monde a eu le temps de souffler. Et effectivement, la reprise, elle va peut-être être un peu difficile pour le corps parce que bon, bah, il va falloir quand même faire un petit peu de réathlétisation entre guillemets, mais par contre pour la tête, qu'est-ce que ça a été bon, et je suis pas surprise d'avoir été la seule à le vivre aussi bien en fait.
Tu en as profité pour faire d'autres choses que tu ne faisais pas justement pendant ce tourbillon?
Déjà ne rien faire. C'était quelque chose, c'est une notion qui m'est un peu inconnue moi de ne rien faire, donc parfois j'étais juste chez moi comme ça. Et puis, je faisais rien. C'était trop cool. Bon, je ne dis pas que ça a duré beaucoup et que je faisais ça des heures par jour. Mais en fait, on est tellement tout le temps en train de courir partout, ne serait-ce que d'un continent à l'autre, mais aussi de l'entraînement, aux soins, au machin. Enfin, j'ai l'impression que cette vie de sportive de haut niveau, elle est sans fin. On est toujours dans le mouvement. Et c'est vrai que le fait d'être bloquée chez moi, ça a été vraiment salvateur. Et puis après, j'ai pu m'adonner à une de mes grandes passions qui est l'écriture. Donc ça, j'en ai passé des heures et des heures sans autre contrainte finalement que de manger et d'aller dormir. Donc c'était trop cool. Et puis voilà, j'ai pu passer du temps avec mon compagnon. On a regardé des séries, on s'est détendu. Enfin, c'était un peu comme des sortes de vacances confinées, quoi. Mais c'était bien.
Ça m'intéresse, on revient là sur l'écriture 3 secondes, si tu le permets.
Autant que tu veux.
Non, mais c'est intéressant. Enfin, donc, tu t'écris depuis longtemps ou c'est vraiment le confinement qui t'a fait prendre conscience que tu avais envie d'écrire?
Non, j'écris depuis longtemps, depuis toujours, depuis que je sais écrire, je pense. J'écris depuis toujours des journaux intimes, des poèmes. Enfin, ça a toujours fait partie de ma vie. À une grande échelle, ça a toujours été un exutoire, une sorte de psychothérapie, même quand j'avais des échecs tennistiques, sportifs. Un de mes premiers réflexes quand ça ne va pas, c'est d'écrire. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est quelque chose qui me vient naturellement. Et du coup, c'est vrai que je l'ai un peu annoncé pendant le confinement, mais j'ai un bouquin qui va être publié début septembre, juste avant Roland, que j'ai écrit moi-même du premier au dernier mot l'année dernière, qui parle plus ou moins de ma carrière, de mon... C'est une sorte de carnet de bord, d'autobiographie. Ça parle de tout ce qui implique le circuit, de mon parcours depuis mon plus jeune âge. Un peu tout, un peu un méli-mélo de beaucoup de choses dans ce livre. Et je l'ai fait lire un peu à droite à gauche dans mon entourage. Et j'ai eu des très bons retours. Donc, je suis très, très contente qu'il sorte ce livre. Et puis là, pendant le confinement, du coup, je me suis remise à l'écriture d'un autre livre qui n'a rien à voir. J'ai décidé d'écrire un roman. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée. Je me suis dit, allez, je vais passer mon temps en faisant quelque chose de constructif. Et donc, je me suis lancée dans l'écriture d'une fiction. C'est beaucoup plus compliqué pour le coup, mais ça a bien occupé mes journées. Et l'essentiel, c'est que je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà.
Est-ce que comme pour le tennis, tu t'imposes un certain nombre de règles, comme l'entraînement est obligatoire au tennis? Est-ce que là, tu te dis, OK, je vais écrire de telle heure à telle heure. Enfin, je vais m'y astreindre vraiment et je vais pas tomber dans, tu parlais de rien faire, donc d'oisiveté, et attention, tu vois, c'est un truc que tu t'es dit quand même quotidiennement, enfin voilà, justement, il faut que j'écrive, j'en ai besoin, enfin, ça me fait du bien, ou non, ça vient quand ça vient et...
Ouais, non, justement, je voulais pas recréer en fait ce programme tyrannique que le tennis m'impose depuis que j'ai 10 ans, à savoir depuis que je veux jouer au tennis professionnellement, je m'impose vraiment, comme tous les athlètes de haut niveau, des trucs vraiment... très programmé, très imposé, tout ça. Là, pour l'écriture, j'ai vraiment envie de me laisser aller, d'écrire exactement quand j'en ai envie, quand l'inspiration vient. Parce qu'en plus, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut imposer. C'est que des fois, il y a des journées, j'ai rien à dire, et puis d'autres journées, ça vient tout seul. Donc en fait, juste j'ouvre mon ordi, je vois si j'ai des choses qui me viennent, et c'est cool d'avoir justement une partie de ma vie qui est un petit peu plus relax et où je m'écoute un peu plus, parce que finalement, dans le tennis, je me suis très peu écoutée au fil de ma carrière.
Et tu dis que c'est une sorte de thérapie pour toi. C'est marrant parce que Corentin Moutet, la semaine dernière, lui, chante. Je ne sais pas si tu as
écouté. Oui, j'ai entendu ses œuvres et je trouve ça très, très bien.
Il a parlé aussi d'exutoire, d'échappatoire, de besoin de poser des mots comme ça. Et ça l'aide aussi à aller mieux. Hein. Est-ce que toi, c'est un petit peu pareil? C'est ce que tu dis, tu parles de thérapie?
Ah oui, j'en avais parlé d'ailleurs avec Corentin à ce sujet et je me retrouve exactement dans ce qu'il peut dire à ce propos. C'est un besoin, je ne sais pas d'où ça vient, d'autres personnes, ça va se manifester autrement. Nous, c'est ça, c'est d'expier un peu tout ce qu'on peut ressentir, et que ce soit à cause du tennis ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que le tennis met en exergue beaucoup, beaucoup d'émotions, des fois des émotions un peu contradictoires. Je parlais d'amour et de désamour, mais vraiment le tennis, pour moi, c'est ça depuis longtemps, c'est que ça m'a fait beaucoup souffrir, ça m'a donné énormément de plaisir. Et c'est vrai que ben, l'écriture, c'est vraiment une thérapie pour mettre tout ça à plat, voir ce qui se passe. Et puis après, bah, je me sens mieux, tout simplement. Voilà.
La question, c'est justement intéressant, c'est est-ce que tu écris quand tu te sens bien ou tu écris plus quand tu te sens mal ?
Ah, d'après toi.
je crois avoir la réponse. Ouais. Parce que, mais bon.
Je crois que la souffrance.
Enfin, je ne sais pas, après, pas forcément, mais c'est une vraie question.
Non, il m'arrive d'écrire quand tout va bien, histoire de marquer le coup aussi, parce que j'ai pas envie d'avoir que des, par exemple, j'écris toujours un peu un journal intime de temps en temps, j'ai pas envie d'avoir un journal intime où il y a que des points négatifs qui en ressortent, et au final, si je le relis dans 30 ans, je vais me dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'étais malheureuse à 20 ans ou 30 ans. Donc j'écris aussi quand ça va bien, mais la plus grande source d'inspiration, elle vient dans la souffrance, dans la douleur, malheureusement, c'est comme ça. Moi, c'est ce qui me donne le plus d'inspiration, mais du coup, c'est bien parce que cette douleur, elle se transforme en énergie créative, et du coup, je me sers de ça pour faire quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que je le fais aussi, c'est pour me dire, tiens, je suis mal, mais au moins, ça va me servir à quelque chose. Et du coup, il y a quelque chose de constructif. Et moi, dans mon cerveau très cartésien, j'ai besoin de savoir que mon temps va servir à quelque chose. Donc, tiens, mais en parlant, c'est tellement logique, en fait, je me rends compte. Merci, Dite, toi, tu m'as servi à m'analyser encore plus.
Voilà, c'est bien. Je deviens petit maintenant.
Non, mais c'est ça, tu ne devrais pas l'appeler Deep Talk, hein, tu devrais l'appeler Deep Psychothérapie.
Je prends ma voix suave et j'écoute, t'as vu un peu. Bon, on va passer au tennis.
Il est où le canapé là ? Parce que là, il faut que je m'allonge.
Tu vas t'allonger, tu vas voir. Alors, on va revenir au tennis. Allez, on va revenir au tennis. Il y a pas mal de compétitions là qui ont lieu, alors sur le circuit masculin non officiel. Pour les filles, il y a pas mal de choses aussi qui se passent ou pas ? Et toi, tu avais programmé de pouvoir participer à d'éventuelles compétitions ?
Pour les filles, il n'y a pas grand-chose qui se passe. J'ai cru entendre parler d'un circuit vers Aix-en-Provence où il y a des matchs un peu d'exhibition pour les joueurs dans les 650 mondiaux, ça, il m'a semblé. Je ne sais pas si c'est que pour les garçons ou si c'est garçons ou filles, je ne suis même pas au courant en fait.
Je pense que c'est les deux. Non,
c'est
les deux.
C'est les deux. Moi, le.
Tu n'as pas été contacté ?
Non, pas pour ça. Moi, la chose que j'attends avec impatience, c'est le circuit français qui va se mettre en place en juillet dans le sud de la France, entre Cannes, Villeneuve et le TC Jourdan à Nice. Donc déjà, c'est dans ma région. Et puis, ça va être une super opportunité de remettre un pied dans la compétition de manière un peu non officielle. Enfin, on a un petit peu de prize money, mais il n'y a pas de points, rien. Donc du coup, ça se transforme un peu en match d'entraînement et c'est super de pouvoir avoir des matchs un peu sous le pied avant d'aller aux US, si la tournée US se maintient, parce que ce sera encore un autre sujet. Donc du coup, voilà, là, c'est dans moins de 2 semaines. Donc je m'y prépare activement, même si bon, j'ai un peu mal à l'épaule, mais j'espère vraiment pouvoir participer à ces 2 ou 3 semaines de compète, quoi.
Ça va se jouer sur une formule classique ou comme l'UTS de Patrick Mouratoglou avec un tennis un peu revisité ?
Je crois que c'est très classique. Tu sais, c'est un circuit fédéral, hein, donc ça reste classique.
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Ah, attends.
Ne me fais pas rebondir là-dessus, s'il te plaît.
Non, mais je crois qu'ils ont juste changé. Il y a un super time break à la place du troisième set pour écourter un petit peu les matchs et pas qu'on se grille dès le départ.
Ouh, gros changement donc.
Okay. Énorme.
D'accord. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de l'évolution, la modernisation du tennis ? Toi, tu es favorable et si oui, sur quels aspects, enfin, tu vois, quels seraient les leviers éventuels que tu verrais justement évoluer dans le futur ?
C'est une bonne question et je ne sais toujours pas de quel côté je suis, mais je pense que je ne suis pas très favorable à ça. Ça doit être mon côté un peu conservateur, mais moi j'ai tendance à dire que le tennis est très bien comme il est maintenant. Après, j'entends les arguments d'un Patrick, par exemple, qui veut un peu bousculer les codes et changer les choses. Et je respecte ce point de vue parce que finalement, je regardais un peu les matchs de l'UTS et c'est marrant, ça se regarde, même si mon œil a du mal à accrocher à ce format. mais je trouve que les fans de tennis sont encore très présents et qu'ils aiment ces formats-là. Et moi, j'entends parler depuis longtemps de la suppression des 5-7, de la suppression de tellement de choses, en fait, de la suppression presque de l'âme du tennis. Et ça, je ne suis pas d'accord, en fait. J'ai envie qu'on garde quand même ce côté un peu historique du tennis. Et les gens qui aiment le tennis, de toute façon, ils adhèrent à ça, et nous aussi. Donc, au final, pourquoi changer?
Mais en fait, ouais. Alors après, j'ai l'impression qu'on a tendance à être un peu manichéen de temps en temps. Est-ce que finalement, on ne doit pas plus parler d'assouplissement plutôt que de suppression, tu vois,
Ah, sur toi, tu parles de ça. Oh, bah, ça, là, par contre, j'ai complètement voilà. Un avis différent.
Je savais bien.
Oui, moi, je parlais plutôt des formats parce qu'en fait, on en parle beaucoup. La WTA et la ATP nous parlent beaucoup de ça depuis longtemps. Ils ont déjà mis en place des choses en junior, jouer les lettres, le NOAD, pas NOAD. Enfin, ça, je trouve ça dément de vouloir enlever l'avantage au tennis. C'est encore d'actualité, malheureusement. Donc, moi, je parlais plutôt des problèmes de format après par rapport au code de conduite. Moi, ce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé ma carrière, ça fait quand même 15 ans, hein, tu l'as dit tout à l'heure.
Bien souligné, t'as vu.
Ouais, c'est que c'était beaucoup plus laxiste, entre guillemets, à l'époque. Mais du coup, c'était quand même un petit peu plus vivant, les matchs. Là, j'ai l'impression qu'on a affaire à des matchs de plus en plus lisses, avec des joueurs qui sont complètement oppressés par les amendes qui leur pend au nez s'ils ouvrent la bouche pour dire ne serait-ce qu'un gros mot. Par exemple, moi, j'ai dit un merde à l'Australian Open, j'ai quand même pris 5 000 $. Donc, je trouve
t'as dit ça une seule fois à l'Australian Open?
Une seule fois, voilà, j'ai dit une seule fois merde. J'ai pris 5 000 $ d'amende et là, je suis allée voir le superviseur du tournoi et j'ai dit, mais j'avais envie de dire, mais what the fuck, quoi.
Oui,
mais c'est pas possible qu'on en arrive là. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous faire de l'argent sur le dos des joueurs pour un merde? Comme si le petit gamin derrière son écran de 10 ans allait être offusqué par un merde. Je veux dire, il y a deux poids, deux mesures. Je suis d'accord qu'on pénalise un Kyrgios qui est parfois, ou d'autres joueurs qui sont parfois odieux sur le terrain. Et moi, parfois aussi, j'ai été odieuse et j'ai mérité d'être punie. Mais il faut savoir où mettre le curseur. Et là, je trouve que c'est tolérance zéro. Ouais, je suis pas du tout pour ça. Je suis pas du tout pour ça. Je suis pour que les matchs soient vivants. Et d'ailleurs, quand on parle encore une fois aux fans de tennis, c'est ce qui leur manque le plus. C'est ces montagnes russes émotionnelles. C'est ces crises de nerfs, c'est cette vie en fait qui est...
Dans certaines limites, tu as raison. Hein. Moi, je
dans une certaine limite, mais voilà, dans une limite de respect en fait. Il faut que ça reste quand même respectueux envers les gens, l'adversaire, l'arbitre et tout ça. Mais si on a envie de s'énerver contre nous, si on a envie de briser une raquette, enfin, je veux dire, ça fait du mal à qui, en fait, concrètement?
Là, c'est plus par rapport au rôle un peu éducatif et le devoir d'exemplarité qu'on peut avoir, tu vois, quand on est une personne publique, comme toi.
Je suis d'accord. Moi, je ne casse pas de raquette, donc ce n'est pas là-dessus que je me fais le plus aligné. Mais je veux dire, ça nous rend humains aussi. Et ça montre aussi aux gens qu'on n'est pas des robots et qu'on a aussi des sentiments
Et les gens qui font du sport, ils comprennent.
Voilà, parce que de toute façon, à tous les niveaux, je veux dire, tous les gens qui ont tenu au moins une fois dans leur vie une raquette savent que le tennis, ça rend fou à tous les niveaux, même quand on joue non classé. Et du coup, oui, il faut une notion de respect, il faut qu'elle reste, il faut une notion d'exemplarité. Mais une fois dans un match, s'il y en a un petit plomb qui pète et que ça joue pas sur l'intégrité de personne, bah, je pense que ça devrait être autorisé, voilà. Mais après, c'est
pour le coup, tu penses que ça pourrait faire du bien? Tu penses que ça pourrait même faire du bien aux spectateurs, aux téléspectateurs, de voir les joueurs s'exprimer un petit peu plus?
Mais regardez bien toutes les vidéos qui tournent le plus sur Internet, et les gens en sont friands. Et je dis pas que c'est bien, mais c'est des joueurs qui, à un moment donné, bah, ils sont plus eux-mêmes, ils craquent et ils font sortir le trop-plein d'émotions. Et au final, c'est plus drôle que choquant, en fait, enfin, jusqu'à une certaine limite. Des fois, Kyrgios, moi, il m'a choqué, mais la plupart du temps, on en rigole de ces vidéos et c'est ce qui reste et c'est ce qui donne envie aux gens de se dire, bah, qu'est-ce qui va se passer pendant ce match-là? Est-ce qu'on va avoir affaire à un match lisse où finalement, il n'y a pas un joueur qui va broncher du match? Ou est-ce qu'à un moment donné, on a une chance d'apercevoir un petit peu de drame? Et moi, je pense que c'est la deuxième option. Voilà.
Tu as été clair là-dessus. Ton côté beaucoup trop aseptisé à... Donc, soyons un peu plus décoiffés, c'est ça?
Ouais, moi-même, je me suis vachement aseptisée au cours de ma carrière. Là, ça fait 2 ans où j'ai fait vraiment un gros travail sur moi-même et je dis plus un mot sur le cours quasiment. Ça m'a beaucoup coûté, mais je l'ai fait pour moi. Mais je l'ai fait aussi parce que on m'a imposé aussi ça comme un dictat un peu de la société, en me disant non, mais pour être un bon joueur et pour être bien vu, il fallait pas dire un mot sur le cours. Donc je l'ai fait pour mon bien-être et pour avoir une meilleure estime de moi-même, une meilleure image, mais aussi parce que l'opinion publique a vachement influé sur ce que je devais être sur le terrain. Et ça, c'est dommage, parce que je trouve qu'on devrait garder une part d'authenticité dans le tennis, c'est important.
Mais la joueuse de tennis, alors, elle doit être comment, elle, sur le terrain? Je parle de toi, évidemment. Finalement, parce ouais. que tu as fait les deux. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Tu es meilleure quand tu arrives à te contrôler ou finalement, ça ne change pas grand-chose? Tu en as besoin parfois, justement, de t'exprimer?
Je pense que ça dépend. Je pense qu'il faut, maintenant que j'ai 30 ans, il faut vraiment que j'arrive à m'écouter. Et maintenant que je me connais vraiment bien, je sais quelles limites il ne faut pas que je dépasse. Je sais à quel moment je perds ma lucidité, parce qu'on sait. Des fois, on a envie de péter un plomb. On se dit, mais tant pis, ça peut me coûter le match, mais j'en ai trop marre, donc il faut que ça sorte. Je pense que je vais un petit peu plus à l'essentiel. J'arrive à mieux gérer mes émotions, à moins me laisser submerger par cette colère des fois qui pouvait me dévorer. Et je pense que ça m'aide quand même. Ça m'aide parce que je garde un petit peu plus d'énergie et j'arrive à la restituer dans des moments importants du match. Mais à certains moments, quand même, il faut que je me mette des coups de pied aux fesses. Parce que si je ne me mets pas de coups de pied aux fesses, je reste un petit peu ouais. molle. Donc, c'est trouver
ce juste équilibre. Je vois cet équilibre, il est très, très sensible, très dur à trouver cet équilibre.
Exactement.
Je vois très bien ce que tu veux dire. Mm. Je crois qu'on l'a tous un peu recherché.
Ouais.
La fusion ATP-WTA, qu'est-ce que tu en penses de ce
sujet? Au début, j'étais contre.
En gros.
Ouais
tu es plutôt contre au départ. Non, vas-y, je te donnerai mon point de vue après.
Au début, j'étais contre. Enfin, contre. Au début, j'ai eu un mouvement un peu de « oula ». Mais encore, peut-être mon esprit conservateur qui se réveille. Après, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait avoir de la gueule, le circuit unifié comme ça, soudé sous une même bannière, filles et garçons. Et puis après, je me suis remis à dire, est-ce qu'on va pas se faire un peu bouffer par les garçons? C'est quand même une grosse, grosse entreprise. Dans la TP, ils ont beaucoup de sponsors, beaucoup de visibilité et tout ça. Est-ce qu'on va pas être un peu noyé là-dessous? Et la finalité, c'est que j'ai toujours le cul entre deux chaises. Que je ne sais pas. Ouais. Voilà, donc j'attends ton avis.
Non, mais tu as raison. En fait, le danger, c'est évidemment que la WTA soit absorbée d'une certaine manière par l'ATP. Il ne faut surtout pas que ce soit ça. Après, quand je dis finalement la fusion ATP-WTA, moi, j'ai envie de dire que je serais plutôt favorable qu'une instance suprême gère le tennis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus l'ITF, la WTA, l'ATP, les quatre branches qui sont autonomes. Mmh. À un moment, c'est bien ce qu'on peut voir. Ça crée quand même quelques dérives, quelques débordements, des comportements parfois assez indélicats. Et c'est ça. Enfin, j'ai l'impression que s'il y avait peut-être cette instance qui dirigerait vraiment l'ensemble pour le bien du tennis, sans que chacun ait la volonté de se tirer la couverture à soi, on avancerait peut-être. Tu vois, là, aujourd'hui, on parle d'unité, mais finalement, tout le monde a joué un peu sa carte. Quand tu regardes, tout le monde a voulu absolument, parce que économiquement, parce que c'est le business, parce que ça reprend le pas sur pas mal de choses malgré tout. C'est assez ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est assez malheureux, mais c'est comme ça. Maintenant, on n'y est pas. Ça fait partie des discussions. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Pourquoi pas, on verra.
Steve Simons nous en a parlé quand même récemment et lui, il serait plutôt favorable aussi. Et je pense qu'il va pousser dans cette direction. Donc, ça peut se faire. Et comme tu dis, moi, c'est juste la symbolique serait belle, je trouve, en fait. On serait un des premiers sports au monde à vraiment avoir une mixité comme ça assumée. Et du coup, je trouverais ça beau. Mais il faut que ce soit bien fait, effectivement. Et que ça fluidifie vraiment en fait tout ce qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai que ça part, la communication n'est pas hyper bonne tout le temps entre les trois instances et nous on est au milieu et on se dit mais des fois c'est stratosphérique ce qui se passe.
C'est compliqué. Maintenant là, si tu regardes, on va parler un peu de la reprise. Il y a eu l'UTS qui a toujours lieu, il y a l'Adria Tour qui maintenant et derrière dans les Balkans. Il y a, je crois, d'autres compétitions qui se déroulent à droite à gauche. Moi, je trouve que c'est assez étrange de voir justement fleurir un paquet de compétitions, justement, même si elles ne sont pas officielles, et que le circuit ne reprenne pas. Ça me paraît assez paradoxal, finalement.
Ouais.
Donc, c'est prévu une reprise prochainement. Est-ce que tu penses que ce qui s'est passé là sur l'Adria Tour risque de compromettre la reprise.
Je pense que ça va faire un peu de tort, ouais, à la reprise de la, du circuit.
Alors, avant de penser si ça va faire du tort, qu'est-ce que tu en as pensé des conditions de sanitaires et de distanciation sur l'Adriatour? Est-ce que tu as trouvé ça choquant?
Ah oui, bah oui, qui n'a pas trouvé ça choquant?
Je vois beaucoup de joueurs avoir vraiment la dent dure contre Djoko. Est-ce que c'est Djoko qu'il faut pointer du doigt? Est-ce que c'est toute une organisation? Est-ce que c'est pas finalement, tu vois aussi, et là j'allais le dire, tu vois, l'ATP qui justement ne gère pas suffisamment, et c'est pour ça que je parlais d'instance, tu vois, à un moment donné, qui gérerait un peu l'ensemble pour mettre en place un cahier des charges et ne pas permettre ces dérives?
Je ne pense pas qu'il faille pointer Djoko du doigt comme ça, même s'il a sa part de responsabilité. Mais finalement, toute l'organisation avec qui il a bossé ont leur part de responsabilité. Mais évidemment que les images de l'Adriatour, elles étaient ultra choquantes. Moi, quand j'ai vu la diffusion, j'ai cru que c'était déjà une rediffusion. Je ne voulais pas croire que les gens étaient entassés comme ça dans les tribunes alors qu'on est en situation de crise et que ce n'est quand même pas un mystère. Donc, en fait, ce qui s'est passé, ça leur pendait clairement au nez. Et en fait, je suis très surprise parce que je ne pense pas que Djoko, ce soit quelqu'un de bête. Au contraire, je pense que c'est un homme plutôt intelligent et qu'il se soit laissé complètement aller, en fait, là-dedans, à prendre aucune mesure et à être complètement inconscient. C'est bizarre. Moi, je vois l'UTS, là, se passe très bien. Enfin, il y a des... il n'y a pas de public. Voilà, en fait, tout est fait.
Pas de soirée.
Ça se passe bien, non. Les gens ont des masques, les mecs ne se font pas les checks, ils sont checkés avec la raquette. Il n'y a pas de public, il n'y a que les box avec les coachs. Enfin, voilà, c'est juste la base, la distanciation sociale, les gestes barrières, etc. Enfin, on nous répète ça depuis quand même 4 mois. Si ça ne nous rentre pas dans le cerveau, c'est grave. Du coup, je suis très surprise de ce qui s'est passé à l'Adriatour. C'est malheureux, mais c'était quasiment obligé qu'on ait derrière une retombée pareille. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on se rende compte finalement que c'est trop tôt et que même s'ils veulent faire un bubble tournament avec les joueurs qui n'aient pas le droit d'aller autre part que du club à l'hôtel et de l'hôtel au club et tout ça, on ne pourra pas contrôler les mouvements de tout le monde. Et le virus peut complètement se répandre comme une traînée de poudre. Et dans ce cas-là, j'ai peur que ce soit, que ce soit un désastre. Quoi.
Tu es pour, toi, tu étais pour la reprise à l'US Open, pour que l'US Open se le joue?
Moi, encore une fois, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Moi, j'étais complètement pour parce que je pense qu'on était prêt à le faire. Mais le truc, c'est que... quand je vois les conditions dans lesquelles on va reprendre, je suis beaucoup moins pour là. C'est que c'est très, très compliqué. Et les restrictions sanitaires sont vraiment difficiles à mettre en place, difficiles à respecter pour les joueurs. On aura des tests, le test nasal là, à faire. D'après le cahier des charges de maintenant, 3 fois par semaine, le test nasal, pas le droit de sortir de l'hôtel, pas le droit de sortir du club, un guest seulement pour aller on-site. Et tant d'autres choses qui font que est-ce qu'on a envie de reprendre dans ces conditions? Et surtout, moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est l'absence des qualifs. Mais mon Dieu, mais c'est des joueurs qui en ont le plus besoin, ces joueurs qui sont entre la 120e et la 250e place mondiale qui galèrent le plus, vont finalement être exemptés de leur plus gros revenu de l'année. Et ça, je trouve ça honteux. Alors, ils vont mettre en parallèle une compétition avec des points et des prize money, mais tout le monde sait que ce ne sera pas à la hauteur d'un grand chelem. Voilà, je trouve qu'au final, c'était une bonne idée, mais la manière dont c'est fait, ça me paraît pas une si bonne idée que ça, au final.
Mais vous avez votre mot à dire là-dessus. Vous pourriez être solidaires les unes des autres et dire non, on ne jouera pas parce que c'est soit avec les qualifs, soit on ne joue pas. Enfin, je sais pas, j'ai entendu que ça pourrait aller dans ce sens et finalement ça n'y va pas.
Ouais, tout simplement parce que je pense que il y a, d'après ce que j'ai entendu de notre représentante de joueuses, il y a à peu près un peu plus de 50% des joueuses qui sont contre la reprise à l'US Open pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais sauf que ça fait un peu moins de 50% qui sont quand même pour. Et du coup, si on veut vraiment se mettre ensemble, il faut qu'on soit 100% ensemble. S'il y a 50% des joueuses qui vont pas jouer et que les 50% vont jouer, au final, on va être pénalisé. Alors oui, ce serait beau, encore une fois, symboliquement, ce serait beau de stand up pour ce qu'on pense être bien et pour ces joueurs qui en ont besoin. Mais le tournoi va quand même se dérouler et on ne va pas prendre les points, on ne va pas prendre le prize money. Et au final, on est juste complètement tributaire de ce que décident les grands chelems. Et c'est malheureux, mais encore une fois, c'est le business qui passe en avant et nous, on ne peut rien faire d'autre quoi, que de suivre comme des moutons.
Donc, on en revient toujours à pareil, il y a trop d'instances autonomes. Mais toi, oui, si ça a lieu, tu y vas.
Ouais, si ça a lieu, oui, si ça a lieu, j'irai même à Cincinnati.
Quelles que soient les conditions extrêmes que tu viens de décrire.
Honnêtement, j'y réfléchis sincèrement, mais l'envie de jouer est plus forte que tout. Et ils prennent des joueurs qui viennent d'être enfermés chez eux 2 mois et qui n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre. Et surtout, parce que financièrement, on commence à en avoir vraiment besoin. Donc, ils nous tiennent un peu par ça. Et moi, ce qui me choque un peu dans cette histoire, c'est que la WTA a clairement exprimé son refus de jouer le tournoi sans les qualifs. Mais en fait, comme il n'y a pas une instance pour tout le monde, les grands chelems sont complètement autonomes dans ce fonctionnement. Et s'ils décident de jouer... Et ils joueront et le tournoi se déroulera et quoi qu'il en soit. Donc finalement, notre avis, il ne sert à rien. Voilà.
On peut. Mm. Ouais. On vient de voir l'annulation de la Fed Cup. Vous êtes donc toujours tenante du titre.
Ouais, pour un an de plus, c'est ça.
Bah, tu dois être déçue.
Ouais, franchement, je suis déçue. Je suis déçue parce qu'il y avait toujours un petit espoir que ça se joue en novembre, d'après ce que j'avais entendu. Et puis déçue parce que c'était censé être la dernière année de Popo. De Pauline Parmentier. Et du coup, elle n'aura pas pu nous faire ses au revoir en bonne et due forme. Ça me fait un peu mal au cœur de me dire que la prochaine campagne, je vais la faire sans elle. Voilà, après, effectivement, on garde notre titre. C'est là, le côté un peu comique de la chose, sans rien faire. Mais effectivement, une année sans Fed Cup, waouh, ça fait quelque chose.
Mm. On va revenir sur toi maintenant, qui, on le répète une troisième fois, c'est lourd, hein, je sais. Mais tu as
non, je suis fière de ma carrière. Ouais, ben je veux dire, elle est longue, quoi. Non, mais d'accord. Elle a été longue et difficile parfois, mais belle.
Comme,
mais
comme dirait Richard, t'es pas dans le dernier carton, hein.
Ouf, lui, il trouve qu'il est pas dans le dernier carton. Moi, je sens que je suis dans le dernier carton quand même. Hein.
Lui, il trouve qu'il est dans le dernier carton.
Ah, moi aussi.
C'est vrai. D'accord. Ah, donc, ouais, justement, ouais. Et c'est quoi ta motivation? Elle est intacte. T'as encore de grandes ambitions. T'as été 11e, hein. Je l'ai dit. T'as gagné de nombreux titres. T'as gagné la Fed Cup. T'as accompli plein de choses. Ouais. T'as envie de quoi encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive pour aller t'entraîner tous les jours?
Alors, dur, hein? Ouais, oui, parce que
dur et simple.
C'est une question que je me pose souvent en ce moment. En ce moment où en fait, on n'est ni en confinement ni en reprise. Donc c'est un moment un peu creux où on a le temps de se poser des questions. Parce que là, je m'entraîne comme d'habitude, quasiment tous les jours. Mais finalement, pourquoi? Pour l'instant, il y a l'US Open, mais c'est quand même dans 2 mois. Et on est dans un moment creux où c'est important de se poser les bonnes questions. Et moi, c'est un euphémisme, mais j'étais un peu déçue du Covid parce que j'avais fait vraiment un super bon début de saison. Je jouais très bien au tennis. J'ai pris une nouvelle coach en fin d'année dernière qui a fait encore évoluer mon jeu où j'étais plus agressive, montais plus au filet. Donc, du coup, je prenais vachement plus de plaisir à jouer depuis le début de l'année. Mon attitude était bonne. Enfin, j'avais l'impression que toutes les pièces du puzzle étaient en train de se mettre en place. Et bam, il y a eu ce foutu virus. Et du coup, moi, ce dont j'ai envie, c'est vraiment de reprendre ma saison là où je l'avais laissée en mars. Parce que j'étais vraiment sur une bonne dynamique. Et voilà, j'ai juste envie, moi, de me faire plaisir sur le terrain, d'aller chercher les meilleurs résultats que je puisse aller chercher. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai encore de grandes ambitions. Mais avec l'ambition aussi de me faire plaisir et d'être fière de moi en termes de la joueuse que je veux être sur le terrain. Voilà, en termes de jeu, en termes d'attitude, c'est un objectif primordial pour moi.
D'accord, mais pour toi, pas pour l'opinion publique.
Exactement.
C'est un sujet, on est d'accord.
Pour moi.
Et tu parles aussi de tes axes de progrès, tu dis d'avancer plus, d'aller plus vers l'avant. Je me questionne en fait, ça m'interpelle quand tu dis ça. Donc aujourd'hui, tu te le dis à 30 ans, mais tu te l'es dit peut-être toute ta carrière. Mais est-ce que finalement, c'est finalement que tu n'as pas vraiment réussi à le mettre en place? Et si c'est le cas, c'est quoi la difficulté? Enfin, le but, c'est de l'expliquer un petit peu justement aux auditeurs.
Ouais, c'est difficile parce que je pense que pour faire évoluer son jeu d'une manière plus agressive, surtout pour une contreuse comme moi qui a quand même passé 15 ans ou plus de sa carrière derrière la ligne. Il m'est arrivé de monter au filet, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, hein, mais c'est vrai que mon ADN de jeu, c'est de rester quand même derrière ma ligne et de remettre beaucoup de balles et de rendre le combat physique. Je pense qu'il faut être prêt mentalement à le faire. Et en fait, c'est ça que les gens ont du mal peut-être à comprendre, c'est que au-delà d'une évolution tennistique, c'est une évolution mentale. C'est d'accepter d'aller vers l'avant et d'accepter de faire l'erreur parfois, de rater en ayant les bonnes intentions. Et en fait, ça paraît tout bête, mais moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à gérer, d'accepter de faire la faute. Et là, en fait, depuis le début de l'année, ce que j'ai compris, c'est que oui, il y aura des erreurs, oui, il y aura un peu plus de déchets, mais il y aura plus de kiff et surtout, il y aura, on va dire, au pourcentage, plus de réussite. Parce que j'ai une bonne main au filet, c'est quelque chose que j'aime faire et j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Et là, les matchs que j'ai fait depuis le début de l'année m'ont montré que j'avais raison. Donc, du coup, après, c'est juste le maintenir sur l'année. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois aussi dans ma carrière, c'est que j'avais souvent commencé mes saisons comme ça. Et puis après, tu sais, t'as vraiment ton
t'as le diable qui revient.
Oui, c'est ça, t'as chassé le naturel, il revient au galop. C'est qu'après, t'as la nature qui revient. Et puis, j'arrivais vers juillet, août, et je reprenais mon ADN de contreuse. Et puis, au final, j'oubliais mes objectifs de début d'année. Et là, je compte vraiment sur mon entraîneur pour me garder dans cette direction. Et je pense que là, l'entourage est hyper important aussi.
Est-ce que ça, tu crois que c'est vraiment la force des toutes meilleures, des tout meilleurs, d'accepter de passer par des phases de défaite, c'est ce que tu dis, enfin pour justement ouais. pouvoir progresser, avoir ça en tête, tu sais que voilà, tu sais que pour rejoindre ce fameux point B, t'as pas le choix, tu dois passer par là et louper parfois de manière grossière. Et, c'est parfois humiliant parce que t'as des choses. Non, mais c'est vrai, hein, faut le dire. Ouais. Mais tu vois, quand je pense, il y a peut-être Serena Williams, mais chez les filles, il y en a certainement d'autres. Mais les trois qu'on peut nommer, c'est Djoko, Nadal et Federer. Quand tu vois depuis 15 ans les progrès réalisés, c'est absolument dingue. Tu vois, alors que ils ont tout le temps été numéro un et tout le temps été très forts. Toi, je reviens à toi parce que tu as été 11e très tôt. Ouais. Et c'est là où j'imagine que ça doit quand même aussi être dur finalement. De se dire, j'imagine que tu as toujours eu envie de revenir au moins à ce classement et de le dépasser, quoi. Mm-hmm. Ça devait faire partie des objectifs, ça doit peut-être encore le faire. Et le plus dur, c'est d'avoir peut-être eu des certitudes en étant jeune, en ayant gagné des matchs d'une certaine manière et de se dire, c'est comme ça que je dois jouer. Moi, je pense que c'est ça le plus dur. Tu sais, tu gagnes des matchs en jouant d'une certaine manière et là, on te dit, oui, mais si tu veux progresser, il faut que tu changes des choses. Et là, tu réponds, mais. Non, j'étais 11e mondial quand même.
Ouais, après moi j'ai.
Tu l'as vécu comme ça ou pas?
Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui sont super intéressantes. Le fait de se prendre des murs pour progresser, moi c'est quelque chose que, effectivement, j'ai eu toujours du mal à le faire dans ma carrière. Parce que la peur de me rater, la peur de ne pas retrouver mon tennis, beaucoup de peur là-dedans en fait. Et c'est vrai que je pense que ça a un peu freiné mon évolution. Dans cet aspect-là, de se dire, bon, ben voilà, peut-être qu'à un moment donné, je ne vais plus retrouver mon tennis, mais c'est pour être meilleur. Moi, j'ai toujours été hyper fidèle à ce que je savais qui fonctionnait sur le terrain. Et j'avais du mal un peu à sortir de cette zone de confort. Zone de confort, moi, j'y suis bien attachée. Après, il y a une fois où vraiment je l'ai fait, et c'est parce que j'avais aussi extrêmement confiance en mon entraîneur et je savais que je n'avais plus le choix. C'est qu'à 22 ans, moi, j'ai quand même changé de prise de coup droit. Je ne sais pas si tu te rends compte le chantier que c'est à 22 ans, quand ça fait, si tu t'en rends compte, ça fait 15 ans que tu joues avec une prise fermée comme ça et d'un coup, on te dit, non, on va t'ouvrir la prise parce que tu ne peux pas jouer sur dur avec cette prise-là et que maintenant, 80% de la saison, elle se passe sur dur, donc il faut évoluer. Je l'ai fait, ça a été très dur. Je n'ai pas mis une balle pendant 2 mois, mais la moralité, c'est que 2 ans plus tard, j'étais revenue dans le top 20 et je suis remontée à 18e mondial. Et là, je me suis effectivement aperçue que cette théorie était juste. C'était qu'à un moment donné, il faut se mettre dans le dur, il faut se mettre dans le mal, faire confiance et y aller, pas se poser de questions. Et même si ça ne fonctionne pas pendant 2, 4, 6 mois, croire en ses convictions et en cette évolution. Mais franchement, c'est une partie difficile du métier, moi, je trouve, de faire péter toutes ces certitudes, toutes ces croyances et de partir sur de nouvelles bases. Et effectivement, les joueurs que tu citais tout à l'heure, moi, je les vois jouer il y a 10 ans, c'est quasiment d'autres joueurs. C'est d'autres joueurs. Et je suis vraiment impressionnée de leur évolution, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils se tirent en plus tous vers le haut. Donc, pas le choix.
Et donc, c'est inné, on n'est pas égaux. Comment tu l'analyses ça?
Ah, y a plein de paramètres. Si on se lance là-dedans, ce n'est pas 40 minutes qui va durer le podcast.
Tu as raison. Mais... En plus, il ne restait pas longtemps. Mais... c'est dur. Mais non, mais je me dis qu'il y a forcément une part d'inné.
Il y a effectivement, je pense, il y a de l'inné, il y a de l'acquis, il y a les rencontres que tu fais, l'entourage, les coachs, Et tout ça, et en fait, c'est encore une fois, c'est toutes ces pièces de puzzle en fait qui se mettent en place. Et après, il y a psychologiquement aussi comment tu le vis. Enfin, l'aspect mental du tennis, il est tellement énorme et on a tellement tendance à le mettre de côté. Donc voilà, moi je m'en suis rendu compte de ça il y a très peu de temps finalement.
Alizée, je vais te libérer. Merci pour cette belle énergie. Merci.
Merci à toi.
C'est un vrai plaisir
de même
aujourd'hui. En tout cas, merci, c'était super cool. Merci. Hein.
Bonne continuation.
On est sur, tu pourrais écouter ça sur les plateformes de podcast, sur Spotify, Deezer, ce que tu veux. Ou pas.
Ouais, j'aime pas trop m'écouter en général, mais j'espère que les gens apprécieront l'interview.
Pareil, je me suis pareil. Horrible. Merci en tout cas d'avoir répondu présente. Merci.
À bientôt. Ciao. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.